Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irung Mushinj. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Olivier Kamitatu Etsu, plusieurs fois ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement porte-parole de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, un parti politique de l'opposition. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Olivier Kamitatu, bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci Monsieur Irung.
Vous avez très bonne mine, hein?
Oui,
vous
oui,
avez pris un peu de l'âge, des cheveux blancs, une barbe blanche.
Tout à fait. On a pris de la patine, dit-on.
Vous voyez le jour, le 17 avril 64 à Bruxelles.
Effectivement.
Vous naissez de Cléophas Kamitatu et Marie-Josée Mafuta Mingi. Quel type d'enfant a été Olivier Kamitatu?
Un enfant très sage. En réalité, je suis né à Bruxelles. Les trois premières années de ma vie, je suis rentré au Congo. J'ai vécu avec ma maman, mes frères Serge et Hugues Kamitatu à Bandal, quartier Sinkin. Ma mère déménagera plus tard pour aller à Moulard. Mais à l'âge de 3 ans, mon père est emprisonné à Boulabemba, sur une île au Congo central. Ma mère le visite régulièrement et je suis un petit Congolais de Bandal qui parle pas français. Et mon père dit à ma mère, écoutez Marie-Josée, l'enfant ici ne parlera jamais français, il faut vraiment l'envoyer faire des études en Europe. Et donc, avec cette bénédiction, je serai envoyé en Belgique. Ma mère voulait d'abord m'envoyer en Suisse, mais c'était des protestants. Ma mère étant catholique, elle a trouvé une dame qui s'occupait du foyer social à Kikwit, qui avait travaillé avec elle. Et donc, c'est là où je vais passer toute ma jeunesse, dans un petit village des Ardennes, où je serai éduqué par une dame qui dirigeait le foyer social à Kikwit. Donc, voilà les premières années.
On ne peut pas parler d'Olivier Kamitatu sans faire allusion à Cléophas Kamitatu, que l'on a cité ici. Votre père est cité parmi les pères de l'indépendance de la RDC. Qu'est-ce que ça fait de porter ce nom?
Eh bien, effectivement, c'est un nom lourd à porter, parce que mon père n'avait pas que des amis. Il était un homme politique, mais il a laissé une trace extrêmement forte dans la politique congolaise en tant qu'un des pères de l'indépendance. Et vous l'avez, je crois, interviewé ici en 2007.
En 2007.
Donc une année avant qu'il ne nous quitte. Kamitatu était avant tout un très grand politique, un animal politique, et il était un intellectuel brillant. Et donc, c'est extrêmement difficile de lui succéder. Il n'y a eu qu'un Kamitatu Cléophas, il n'y en aura pas un deuxième. Olivier, c'est autre chose, mais il m'a donné les codes, il m'a enseigné beaucoup de choses, il m'a transmis le flambeau à Massimanimba, qui était vraiment la contrée, sa circonscription. Il a fait chaque village, il m'a accompagné dans chaque village quand j'ai eu la chance et l'honneur d'être désigné comme président de l'Assemblée nationale. Eh bien, il m'a présenté à chaque grand village en disant, quand je ne serai plus là, eh bien, mon fils, c'est lui qui vous dira ce qu'il faut faire en politique. Donc, je lui suis extrêmement reconnaissant et j'espère pouvoir un jour, moi aussi, transmettre, parce que la transmission en politique est une chose qui est souvent négligée. Cléophas Kamitatu a fait sa part. Mais n'oublions pas ma mère aussi, qui fut la deuxième femme à devenir ministre dans le gouvernement du président Mobutu. Et ce fut une des toutes premières à entrer en politique, à être élue, elle de Bulungu. Et vous savez, chez nous, c'est le matriarcat. Donc, j'ai à la fois mes racines là du ventre duquel je suis sorti à Bulungu et les racines que mon père m'a confiées à Massimanimba. Donc voilà deux êtres qui me sont chers et qui m'ont beaucoup donné et qui m'ont beaucoup appris.
Quels souvenirs d'enfance vous reviennent comme ça d'emblée, si vous devriez nous en donner quelques-uns?
Oh, des souvenirs d'enfance. Un des premiers voyages, parce que j'étais en Belgique, mais régulièrement ma mère me faisait rentrer, donc un des premiers voyages que j'ai fait, c'était aller à Leverville-Lusanga. Elle m'a pris par la main, il fallait que je voie le village maternel, que je traverse ces forêts. J'étais impressionné par les singes qu'il y avait au milieu de la forêt qui nous menaient de Bulungu vers Lusanga. Là, j'ai vraiment senti qu'il y avait autre chose en République démocratique du Congo, au Zaïre de l'époque. Un autre souvenir qui m'avait marqué, c'est que mon père était un opposant. Vous le savez, il avait été arrêté à maintes reprises. Chaque régime l'a embastillé, l'a mis en prison. Et donc, il n'était pas facile de porter le nom d'un opposant, même si on est enfant. Je voyageais souvent très seul en avion. Eh bien, à l'époque, le CND, ils ont arraché la page de mon passeport, il y avait la photo. Et je n'avais pas regardé mon passeport, je devais avoir 10 ou 11 ans. Et donc, j'ai dû passer des heures et des heures. Et là aussi, c'est ma mère qui est venue me rechercher.
Juste pour vous embêter.
Juste pour m'embêter. Donc, à l'époque déjà, il y avait ces services de sécurité qui étaient extrêmement présents et qui terrorisaient. Et j'en ai gardé un mauvais souvenir. Et je me suis dit que la liberté ne peut jamais se concevoir quand les services de sécurité dépassent leur mission.
Quelques noms d'amis d'enfance?
Les amis d'enfance, il y a la famille Kim Piam, donc qui était parmi les premiers intellectuels dans le Kwilu. Bien entendu, les Kim Piobi, la maman de Paulette Kim Piobi, une de vos
Paulette Kimuntu.
Kimuntu, Paulette Kimuntu. Sa maman était venue me visiter. Par un de ses voyages, ma mère lui avait dit, bah, écoutez, allez voir mon enfant, il est dans les Ardennes, perdu, je devais avoir 3-4 ans. Et cette maman est venue, j'étais impressionné avec son kitambala, son pagne. Ça ressemblait pas du tout aux mamans belges. Donc il y avait déjà un grand choc culturel. Mais plus tard, comme on parlait de mes amis, bah, plus tard, à l'université, bien entendu, là, je ferai la connaissance de Jean-Pierre Bemba, de Michel Lossembe, de Bob Mandungu et de beaucoup de monde.
Quelques anecdotes d'enfance.
Anecdotes d'enfance. Une des anecdotes qui m'a le plus marqué, c'est que mon père, qui était ministre à l'époque, je crois, de l'environnement ou je sais pas quoi, est venu me voir jouer au football. Et donc, chaque lendemain, le lundi, il y avait la rubrique du football dans la petite journal, la petite gazette régionale. Et dans la petite gazette régionale, il y avait un ministre zaïrois, monsieur Kamitatou, est venu voir jouer son fils. C'était dans le compte-rendu du match. Alors, j'en étais très fier et j'ai gardé ça très longtemps comme bon souvenir que mon père m'ait fait l'honneur à l'époque de venir me voir jouer au football. J'adorais le football.
Et aujourd'hui, vous pratiquez encore ce football?
Non, malheureusement.
À vos heures perdues?
À l'âge où je suis, bon, ben, on devient perclus de rhumatisme.
Ah oui, mais du côté musique, souvent, football, musique, ça rime un peu ensemble, non?
Vous avez... Mes amis ne m'aiment pas quand je suis dans une soirée, parce que d'une part, je connais très mal la musique. J'apprécie toutes les musiques, mais j'apprécie particulièrement la musique classique. Mais je suis assez éclectique. Et au niveau musique, j'apprécie énormément ce que font les jeunes talents congolais aujourd'hui, que ce soit Damso, que ce soit Ninho, que ce soit MHD, que ce soit Youssoupha, la nouvelle génération.
Vous êtes connectés.
Elle
hein.
fait un son qui est formidable, parce que la culture congolaise est en train d'exploser dans le monde. Les jeunes musiciens congolais sont, je pense, au top et le demeureront parce que le Congo a vocation à assumer un leadership au niveau culturel et au niveau mondial.
Je disais que vous êtes connecté.
J'ai des enfants qui le sont, mais j'aime le son. J'aime le son. Ce que j'entends,
bon son.
J'aime le bon son. Gims et autres, j'aime le bon son.
En 1986, vous êtes diplômé de l'Institut catholique des hautes études de commerce de Bruxelles. Option problèmes économiques des pays en développement. Pourquoi le choix de l'économie?
Le choix de l'économie, parce que le développement passe effectivement par la maîtrise de tous les ratios et des éléments qui conduisent à assurer une bonne gouvernance. L'économie est un instrument au service de l'homme. Si on considère que la première priorité pour développer un pays, c'est de s'intéresser au destin de chacune et chacun, je pense que ça passe également par l'économie. Certains auraient choisi le droit, d'autres la médecine ou les sciences exactes. J'ai choisi les études commerciales parce que c'est un non-choix en réalité. Quand vous faites les commerciales, vous touchez un peu à tout. Vous touchez à la finance, vous touchez à la comptabilité, vous touchez à l'histoire économique, vous touchez aux relations internationales, vous touchez au développement. Donc c'était assez éclectique et cela répondait à cet âge-là, au choix que je m'étais fixé. C'était garder les horizons tout à fait ouverts, mais en ayant toujours un point sur l'économie, le commerce, le développement.
Alors selon vous, quels sont les principaux problèmes économiques des pays en développement, de manière générale?
De manière générale, c'est la gouvernance. De manière générale, la gouvernance défaillante, due à un leadership défaillant. Parce qu'aujourd'hui, nous devons faire face à un grand défi. Le premier défi auquel nous devons faire face, c'est notre explosion démographique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes 100, 105 millions de Congolais. Nous avons un taux d'expansion démographique particulièrement élevé. Le taux de naissance, donc le taux de fertilité des mamans congolaises est très élevé. Plus 6,1 enfants par femme en âge de procréer. Nous sommes 100 ou 105 millions de Congolais aujourd'hui. Nous serons en 2050 177 millions de Congolais d'après les calculs informatiques. Allez, 180 millions de Congolais sur 2 milliards d'Africains. Donc, pratiquement, en 2050, un Africain sur 10 sera un Congolais. C'est énorme, mais c'est une chance. C'est une chance en termes de dividendes démographiques. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir une main-d'œuvre, si elle est bien formée, capable d'aider ce pays à se développer, à se doter des infrastructures, à être une économie compétitive. C'est une chance au niveau, on vient de le dire, culturel, au niveau sportif. La République démocratique du Congo, où que vous alliez dans le monde, vous trouverez des frères et des sœurs, des Congolaises et des Congolais partout dans le monde. Des ingénieurs, des travailleurs, des scientifiques, partout. Et ça, c'est notre premier défi, premier challenge, notre expansion démographique. Le deuxième challenge, comment allons-nous faire pour éduquer cette population, pour la nourrir, pour lui trouver un emploi? Chaque petit enfant qu'on voit dans un quartier de Kinshasa, dans un village du pays, c'est dans 15 ans une opportunité ou dans 20 ans une opportunité d'emploi qu'il faut lui donner. Et donc ça, c'est un énorme défi, indépendamment des défis qui concernent la planète et pour lesquels nous sommes en première ligne. Le changement climatique, l'énergie, l'alimentaire, les migrations. Il faut qu'on garde une grande main-d'œuvre dans notre pays. Nous avons la vocation de redevenir une très grande puissance au cœur de l'Afrique. En 1960, nous avions la richesse comparable au Canada, comparable à la Corée. En 2050, nous devons retrouver notre destin.
Après vos études, vous avez fait beaucoup de choses. On vous cite notamment comme cofondateur de Bercy, vous étiez à Cibé. Oui. Racontez-nous un peu cette expérience.
Ben alors, quand je quitte l'université, on est en 86-87, mon père veut absolument que j'entre à la banque. Pour lui, son fils doit être un banquier. Alors, je passe un test à la BCZ, qui est devenue la BCDC. Je réussis ce test. Mais au bout d'un mois, le salaire qu'on me propose est moins que l'argent de poche que mes parents me donnaient à l'université. Je dis non, je vais pas faire ça. Alors, avec mon père, c'est une grosse bouderie. Il va se fâcher. C'est Jean-Pierre Bemba qui va me dire, bien, tu aimes écrire, tu aimes la plume. Nous avons un magazine, Cibé. Zahir Magazine à l'époque, et donc Jeannot Bemba va me confier la responsabilité de ce magazine, qui est un magazine d'entreprise. Quelques années plus tard, deux ans plus tard, mon père revient à la charge, il dit, bon, tu n'as pas voulu la banque, mais il y a l'inspection générale des finances qu'on est en train de créer avec le soutien de la Banque mondiale. Donc je veux que tu entres à l'inspection générale des finances. À nouveau un examen, donc j'entre d'abord comme secrétaire administratif, ensuite le concours, je passe le concours, je le réussis avec Alinguité, avec Bamporiki, Bavonsa, c'est tous mes amis de promotion. La toute première promotion, 1988, je deviens inspecteur des finances. Nous sommes 50 jeunes. Mais en 89, la coopération s'arrête brutalement. Donc les bailleurs de fonds décident de ne plus financer l'inspection des finances. Et nous sommes, après deux ans de formation à l'école des finances, à la DGI, à l'OFIDA à l'époque, donc aux douanes, nous sommes laissés pour compte. Et là, je décide, parce qu'on approche de la démocratisation, de la libéralisation, avec ma belle-sœur de l'époque, Francesca Bomboko, je suis passionné par les sondages, par être un observateur de la vie politique. Et donc, tout en faisant mes missions d'inspecteur des finances, je crée avec elle Bercy. Elle va partir aux États-Unis pour faire un doctorat et je vais gérer Bercy tout seul pendant 7-8 ans. Et j'ai adoré ça parce que chaque mois, nous faisions une enquête. Et ce qui m'a conduit d'ailleurs à être poursuivi, arrêté. Parce qu'à l'époque, bien plus tard, quand le président Kabila père prend le pouvoir, les sondages au bout de quelques mois ne sont pas bons. Ils considèrent qu'on doit arrêter et qu'on doit aussi m'arrêter. Donc c'est comme ça que je suis parti sur d'autres chemins.
90, la démocratisation, comment vous vivez ça?
Ben, comme je vous dis, c'est pour moi une formidable exaltation parce qu'on croit dans la liberté et je vois le parti chrétien qui s'anime avec Joseph Ideo. Mon père entre dans ce parti chrétien, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est observer comment la société va s'adapter à cette nouvelle donne. Ce serait une transition déjà très longue et très chaotique, qu'on va observer, violentes aussi, mais ce seront des années pleines d'exaltation avec la conférence nationale souveraine qui sera riche d'enseignements. Je ne pouvais imaginer que quelques années après, j'aurais aussi à diriger une assemblée nationale de transition et de porter aussi un élément fort dans l'histoire de la démocratie de ce pays.
97, le régime Afdel avec Laurent Désiré Kabila arrive, le régime Mobutu tombe. Comment vous analysez cette transition en ce moment-là?
Transition, là aussi, mal préparée.
Brutale.
Je pense que le président Mobutu a trop tardivement perçu la fin et qu'il aurait pu donner à ce pays une chance. Il ne l'a pas donné. Il a laissé le pays dans un grand chaos. Il ne s'y est pas préparé, mais peut-on se préparer quand on est très malade, qu'on ne perçoit la réalité qu'à travers le prisme de collaborateurs qui ne vous donnent pas tout à fait la réalité des faits? Vous n'avez pas un jugement qui soit totalement départi d'une volonté de conserver le pouvoir. Et finalement, ça s'est détricoté tellement vite, à commencer par son armée, qu'il ne se relèvera jamais. Aujourd'hui, nous vivons toujours les conséquences de cette défaillance brutale de ce qui était la fierté de la République démocratique du Congo. C'était son armée qui faisait la loi à travers l'Afrique.
En mai 99, vous rejoignez la rébellion menée par Jean-Pierre Bemba de 99 à 2003. Vous dirigez même la délégation du mouvement au dialogue intercongolais. Ça aussi, c'est une grande transition en ce qui vous concerne personnellement. Comment est-ce qu'on prend la décision d'intégrer une rébellion?
C'est souvent ce que je dis aux jeunes, c'est que entre une volonté de changement radical et le fait de passer à l'acte, il y a une étape que très peu de gens franchissent. Vous savez, ici, tous les matins, il y a des gens qui sont mécontents, qui se disent « Ah non, je vais me révolter », etc. Ils le font pas, parce qu'il y a quelque chose qui vous inhibe profondément. Ici, j'avais pas le choix. C'est qu'à l'époque, je vous ai dit, quand les sondages ont été mauvais, parce que j'étais le promoteur et l'animateur de Bercy, j'ai donc été arrêté. J'ai eu la chance, à l'époque, le chef des services de renseignement, donc l'ANR de l'époque, Monsieur Georges Letta, était un de mes clients, paradoxalement. Donc les services de sécurité utilisaient une boîte de sondage privée et achetaient mes sondages et faisaient la contre-vérification avec les leurs, parce que c'est aussi ça la charge des services, c'est de sonder l'opinion et de la rapporter à leur chef. Eh bien, un jour, Georges Letta me dira « Olivier, il est temps que tu partes ». Parce que je ne pourrais plus assurer ta sécurité. J'étais arrêté depuis un mois. Le matin, je devais me présenter au CNS partout. Et le soir, j'avais la chance de rentrer à la maison. Et ce jour-là, il m'a dit « Bon, mais demain, on va t'arrêter, donc tu dois partir ». Et donc, je suis parti. Et de là, Jean-Pierre Bemba avait depuis plusieurs mois lancé sa rébellion. Nous étions des amis, des vieilles connaissances d'université. Et il m'appelle, il me dit « Olivier, qu'est-ce que tu fais ?»« Mais viens voir ce que je fais. Je serai à Kampala telle date. » Je t'envoie un billet d'avion, viens voir, simplement. Bon, j'ai pris un billet pour 10 jours. J'ai toujours le retour avec moi, parce que je ne suis jamais rentré. Et finalement, les 10 jours sont devenus 1 an, 2 ans. Et c'est comme ça que finalement, j'ai intégré la branche politique du MLC à l'époque. Jean-Pierre étant, bien entendu, le chairman, il gérait tout. Mais il était plus intéressé par la branche militaire. Et il m'a laissé une très grande liberté à gérer les négociations qui ont commencé et qui ont abouti à l'accord de Sun City.
Il y a des exactions qui ont été attribuées au MLC. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je pense que ce que Jean-Pierre Bemba a payé extrêmement lourdement, c'est le fait qu'il avait une armée qui était extrêmement bien organisée, qui a commis certainement des écarts, comme toute armée commet des écarts. Il a payé cela très cher parce qu'il n'avait pas un mandat d'intervenir, même à la demande du président centrafricain, qui l'a appelé au secours. Et donc, il lui a porté secours, effectivement, à certains moments, tout comme il avait 2 ans avant porté secours aux expatriés qui étaient menacés par un autre coup d'État qui s'était déroulé 2 ans avant avec Kolingba. Il s'est investi fortement, mais sans avoir aucun mandat international, et il l'a payé extrêmement cher.
Petit cœur est touché, j'ai donné tellement d'amour, j'ai donné tellement de temps que je n'ai pu récupérer. Rejoins-moi derrière les quais, j'ai des soucis à noyer. À l'intérieur c'est cassé, mais tu vas tout réparer. Je veux même pas savoir si je suis le premier, mais celui qui t'a laissé ne t'a pas bien regardé. Tu seras envié par les reines, jalouse et parler du geste. Tes pieds fouleront toutes les terres comme les Didi d'Angleterre. Parle-moi. Je te sers mes sentiments, assis aux extrémités comme l'Orient et l'Occident. À chaque chose que tu demandes, mon cœur ne sait pas dire non. Concentre-toi sur la carte, je m'occupe de l'addition. J'écris ça sur une montagne à la lumière de la foudre. C'est comme dans les films, je te vois, je traverse la foule.
Parle-moi.
Zorjuna, star de la télé-réalité, Darcina Dajou, Aronina Ficha, X-Gates Nagelas, Bejik, un saut le véritable, voilà. H maintenant, Jason Matrevis, Jean-Claude Cabon, l'homme aux mille facettes, Renaud Robillot, le gardien de la SACEM, Charles Table, directeur des cabinets, l'impératrice est reine. Ambassadrice, reine des bois d'émeraude, Dandem.
Le grand témoin.
Grand témoin, mesdames et messieurs, reçoit Olivier Kamitatou Etsou, plusieurs fois ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du parti Alliance pour le renouveau du Congo, Arc en sigle, actuellement porte-parole de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, un parti politique de l'opposition. 2003-2023, ça fait exactement 20 ans du dialogue intercongolais. 20 ans après, quel bilan vous en dressez? Quelles leçons peut-on en tirer?
C'est une grande question qui mériterait toute une émission. La première chose que je dirais, cet accord d'il y a 20 ans, c'est une génération. Et souvent, on l'oublie. L'accord de Sun City, c'est la génération de Bemba, de Kamere, de Rouberoua, peut-être de Kamitatou et d'autres. Donc ça fait 20 ans. Une génération est passée. Avons-nous réussi en termes de génération politique là où nous avions marqué le curseur? Nous avions décidé de prendre les armes pour restaurer ce qui nous paraissait le plus cher à l'époque, c'était la démocratie, l'état de droit, et nous avions formulé cela par le nouvel ordre politique. Un nouvel ordre politique fondé sur, effectivement, le souverain primaire, ça veut dire permettre aux Congolaises et aux Congolais de choisir librement les animateurs d'institutions démocratiques. Nous avons, un, convenu du nouvel ordre politique. Nous avons organisé une transition apaisée. Nous avons réunifié un pays qui était divisé en quatre grands morceaux, totalement divisé. D'ailleurs, la MONUC, qui deviendra la MONUSCO, elle s'est déployée en 99 pour essayer de faire régner le cessez-le-feu en autorisant pour la première fois les groupes qui géraient les territoires à les administrer au profit des populations. Donc le Congo a été divisé. Joseph Kabila tenait Kinshasa, le gouvernement central, et il n'a eu de cesse de réunifier les morceaux. Et donc, on a consacré cette formule assez inédite de 1 plus 4. Donc, nous avons fait preuve d'une très grande créativité politique pour la réunification de ce pays, pour lui donner un nouvel ordre politique issue d'élections. On a d'abord élaboré une constitution et tous les jours, j'invite les Congolaises et les Congolais à relire ne fût-ce que le préambule de cette constitution de 2005 qui était adoptée par référendum en décembre 2005, promulguée en 2006. Qu'est-ce que nous avions stigmatisé ? C'était l'absence de légitimité. Les crises de légitimité récurrentes qui plombaient réellement la République démocratique du Congo et nous amenaient toujours vers des conflits. Nous avions décidé à l'époque de mettre en place des institutions démocratiques sur base de l'état de droit et de la séparation du pouvoir. Et nous avions considéré qu'il était important que ces institutions travaillent entre elles en harmonie. Nous avions considéré qu'il était essentiel qu'on évite toute forme de conflit. Nous avions considéré qu'il nous fallait instaurer, consolider l'état de droit. Dans cette constitution, nous avions dit dans son préambule, et c'est tout ce qui suivra, qu'il fallait contrer toute dérive dictatoriale, qu'il fallait mettre en place une bonne gouvernance et qu'il fallait assurer une alternance démocratique. Voilà les 6 points sur lesquels nous nous sommes tous mis d'accord. Est-ce que 20 ans après, nous sommes toujours d'accord sur ces 6 points? Je le crois. Est-ce que nous les avons appliqués? Je ne le crois pas. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'effectivement, les institutions ne travaillent pas dans l'harmonie. On constate qu'effectivement, on n'arrive pas à contrer les dérives dictatoriales, que la gouvernance est totalement défaillante, que les conflits sont récurrents. Il y avait 50 groupes armés en 2018, ils sont 150 aujourd'hui, et que finalement, l'alternance démocratique voulue dans cette constitution, on est peut-être en train de nous organiser une nouvelle grande mascarade. Donc, effectivement, le bilan n'est pas positif.
Et donc, votre génération a échoué?
Je pense qu'elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi, mais elle a posé les fondamentaux. Elle a posé les fondamentaux, je viens de le rappeler, des institutions qui fonctionnent, un pays qui soit apaisé, un état de droit respectueux de chaque Congolaise, de chaque Congolais, avec une justice impartiale, une bonne gouvernance, éviter toute dérive dictatoriale et finalement assurer une alternance démocratique régulièrement sans remettre au souverain primaire. C'est tout à fait simple. C'est dans la Constitution, une Constitution élaborée par 500 députés, et j'ai eu l'honneur de diriger cela, et je pense que ça restera un des moments forts de ces 20 dernières années. Ce pacte républicain ne peut pas être déchiré, foulé aux pieds, en considérant qu'il faut autre chose. Ce pacte était solide et tient encore aujourd'hui.
Vous l'avez dit, vous avez été président de l'Assemblée nationale. Quelles leçons peut-on tirer quand on a assumé des fonctions de l'État à ce niveau-là?
Ce qu'on peut dire que les fonctions de l'État exigent, primo, une très grande humilité. Je vous fais une confidence. Quand je suis président de l'Assemblée nationale, je viens du MLC. Nous venons de faire la guerre, nous avons des ennemis. Des jeunes Congolais sont morts, des milliers, des millions de Congolais sont morts. Nous venons tout droit de la guerre. Je me promène à Kinshasa avec ma voiture et derrière moi, j'ai simplement une Jeep qui me suit au cas où ma voiture tombe en panne. Et je n'ai pas de sirène. C'est ça, 2003, 2004... 2005, 2006. Un pays qui sort de la guerre, mais tout le monde considère qu'il nous faut revenir à une certaine forme d'humilité. En 2023, c'est pas tout à fait ça. Quand je circule à Kinshasa, c'est des sirènes à tout bout de champ, c'est des cortèges kilométriques, c'est des gens qui se croient au-dessus des Congolais. Non, les institutions sont au service des Congolais. Les Congolais ne sont pas au service d'une poignée d'individus. C'est ça qui a profondément changé la société dans le plus mauvais sens. Donc, je retiendrai que diriger une institution d'hommes et de femmes de qualité qui ont une vision commune de l'avenir de ce pays, nous avons adopté de très belles lois, de très beaux textes, au-delà de la Constitution que nous avons élaborée et que nous avons adoptée, fait adopter par référendum à 85-86%. La loi sur la nationalité, la loi sur l'armée, la loi sur les institutions d'appui à la démocratie, j'en passe. Donc, nous avons remis, en termes de travail législatif, nous avons été très très loin en termes de contrôle des gouvernants. Il y a eu des contrôles extrêmement forts qui ont conduit beaucoup de ministres à être débarqués du gouvernement.
Jean-Pierre Bemba, un ami d'enfance, un ami de longue date, vous avez fait la rébellion ensemble, le parti MLC, et après c'est le clash. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'en ai jamais parlé, je sais pas si je dois en parler un jour. Je pense que Jean-Pierre Bemba est un...
J'ai raté la première confidence, allez-y à la deuxième.
Non, c'est... Jean-Pierre Bemba avait une vision et du courage. Un courage de passer aux actes et d'organiser les choses pour aller de l'avant. Probablement, dans le leadership, je ne me suis pas reconnu dans une forme de leadership. Dans un pays aussi vaste que le nôtre, Il faut énormément de souplesse, de flexibilité, de capacité d'écoute, de respect des autres et de ce qui est le plus fondamental dans les relations humaines. Vous ne pouvez bâtir des relations que dans la bienveillance. Je ne me suis pas reconnu dans son leadership, que d'autres peuvent apprécier. Je pense qu'à un moment donné, nos routes devaient se séparer.
Février 2007, vous êtes ministre du Plan dans le gouvernement Gizenga. Vous poursuivrez au même poste dans le gouvernement Mozito II. En tant que ministre du Plan d'un pays aussi vaste, d'un pays potentiellement riche, qu'est-ce que l'ancien ministre du Plan dit aux Congolais qui vous suivent en ce moment?
D'abord, les Congolaises et les Congolais, ils ne savent pas ce que fait le ministre du Plan. Personne ne le sait. Alors, pour résumer cela, il faut dire que chaque Congolaise et chaque Congolais a la volonté de construire une maison. Ça, c'est dans le cœur et l'âme. Un Congolais est né avec une brique dans le ventre. Il veut avoir sa maison. Vous voulez avoir une maison, vous allez auprès d'un architecte, il vous fait le plan. Et maintenant, l'architecte peut devenir le maître d'œuvre. Vous pouvez dire, non, merci, j'ai le plan et je ferai autre chose. C'est ça, le ministre du Plan. Il vous dresse un plan. Maintenant, quand il faut commencer à creuser les fondations, il faut mettre de l'argent. Il faut trouver les ouvriers, les métiers, les corps de métiers. C'est plus le ministre du Plan. Le plan a été dressé. Donc, nous avons fait l'architecture à travers d'abord les document de stratégie de réduction de la pauvreté auquel je n'ai pas beaucoup adhéré. Parce que
Le DCRP,
qu'il soit un ou deux, j'ai trouvé ça assez cocasse de dire à quelqu'un « Mais mes chers amis, vous serez moins pauvres demain. » C'est ridicule. Il faut dire aux gens « Vous serez riches demain. »
Je vous ai reçu à l'époque, vous vous en réjouissiez et pourtant...
Je m'en réjouissais parce que nous étions dans les programmes d'urgence, parce que à l'époque, n'oublions pas que le budget de l'État congolais, c'était 300 millions de dollars. Je pense que le Premier ministre Mozito va le porter à 1 milliard. On va arriver à effacer une dette de 10 milliards. Aujourd'hui, on s'est réendetté de manière scandaleuse. Mais de tout cela, le ministre du Plan a rêvé le Congo, a donné une esquisse d'une prospective sur l'avenir, et c'est ça, un véritable ministre du Plan, c'est de ne pas travailler sur un budget d'un an, mais c'est de travailler sur des cartes de dépenses à moyen terme, de donner des orientations, que ce soit au niveau économique, au niveau social, de sorte que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse se dire « le gouvernement me protège, me rassure, encadre mes activités et me permet de m'épanouir et de chercher le bonheur dans mon pays. »
Après le MLC, vous fondez votre parti, l'Alliance pour le Renouveau au Congo, ARC. Bon, c'est une autre expérience de présent de parti. Quels souvenirs vous en avez gardé?
Plusieurs, d'abord. Toutes les amies, ceux qui m'ont rejoint, c'était des hommes qui partageaient avec moi une volonté de plus de liberté. L'ARC a été fondée sur une idéologie, parce que très souvent on ne parle pas des idéologies. Et je suis très fier d'avoir été le président du réseau libéral africain pendant près de 5 ans. Et je suis très fier également d'avoir et de rester un des vice-présidents de l'international libéral. Parce que avant tout, l'idéologie pour moi que je conduis, c'est la démocratie et la liberté. Il faut assurer à chaque Congolaise et à chaque Congolais de pouvoir s'épanouir et de devenir ce qu'il aspire à être dans la société, dans un pays qui soit apaisé. Et ça, c'est véritablement les vertus de la liberté que nous avons voulu promouvoir. C'était la base de l'idéologie de l'Alliance pour le Renouveau du Congo.
Après, vous êtes membre du G7, une plateforme de 7 partis qui ont quitté la majorité présidentielle, qui soutenait à l'époque l'action du président Joseph Kabila. Ça aussi, c'est une transition importante dans votre vie et dans l'histoire de ce pays. C'était quoi les véritables motivations?
La véritable motivation, vous vous rappellerez, donc il y a une volonté... En 2011, troisième confidence, 2011 les élections, je ne suis plus en odeur de sainteté auprès de Joseph Kabila et de son parti. Je suis considéré peut-être comme un électron libre. Je vois le président de la République à l'époque et je lui dis, Monsieur le Président, je pense que après les élections, il serait bon que vous puissiez... réviser cette constitution. Elle était élaborée dans une certaine période et je vois que elle n'est pas respectée. Alors, soit on respecte la constitution, soit on demande à une constituante d'en élaborer de nouveaux termes et de réviser les choses qui ne fonctionnent pas. Parmi lesquelles, les pouvoirs du président de la République. au terme de la constitution actuelle, le président de la République a des pouvoirs extrêmement réduits. C'est le premier ministre qui élabore la politique du pays et la met en œuvre en concertation avec le président sur un ou deux secteurs, mais c'est lui qui en est le responsable. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que depuis plusieurs années, c'est le président qui est l'alpha et l'oméga, qui dit tout, qui dicte tout, qui se paye un train de vie somptuaire, comme aujourd'hui on dit que ce sont des millions de dollars de salaire. Ce président de la République-là n'est pas le président de la République que 85 ou 86% des Congolais ont choisi lors du référendum. Le président de la République est le garant, mais il ne conduit pas la politique du pays. Et donc, Joseph Kabila m'entend, mais ne m'écoute pas. Et donc, il veut changer la constitution à la fin de son mandat. Et ce changement est inacceptable. On peut changer de constitution, non pas pour gagner des élections, mais pour améliorer les choses, certes. Mais on ne tripatouille pas une constitution pour rester au pouvoir. Et c'était ça le vrai conflit. Nous étions dans la même famille politique, nous avons dit au président, il n'est pas question d'un troisième mandat, il n'est pas question de changer la constitution, nous pouvons continuer à soutenir le candidat que vous nous présenterez à notre famille politique, mais ne changeons pas, et nous l'avons exhorté à ne pas changer la constitution. Il a eu l'air de s'entêter. On est allé dans des prolongations qui ont été extrêmement difficiles, qui ont consacré beaucoup de martyrs. Le peuple s'est réveillé et finalement, le président Kabila est parti et la constitution n'a pas été changée. Donc quelque part, le G7 a fait son devoir de citoyen, d'homme politique et nous sommes restés attachés à une valeur qui est le respect de notre constitution au rang desquelles des gens ont démissionné, comme Moïse Katumbi, qui gérait le Katanga, qui est la province la plus riche du pays. C'est pas évident. Passer de la parole aux actes, il faut une dose de courage et de détermination et d'engagement. Le gouverneur Katumbi en a fait la démonstration. Les ministres, qu'ils soient Charles Mwando à l'époque et d'autres, Samalou Kondé, actuel Premier ministre, se sont départis de leur responsabilité pour assumer ce qu'il pensait être la bonne voie pour le pays.
J'ai toujours rêvé d'être dans le top sur face à la jalousie. Bref. Bref. C'est Johnny. Pour la qualité, bordel. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sort face à la jalousie. On fait du bénéf pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juste dehors. J'suis tout près de la quiche, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise, hein. Je m'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte trois plaques. Ligo, je peux pas me péter, ça nique mon cardio, je t'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, les écrans, mais je suis en pétard.
Je suis trop vénère.
Préfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson.
J'ai fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est là où je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. C'est une œuvre bienfaisante, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose.
Chef. Toujours rêvé d'être dans le top, sourd face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juste dehors. J'suis tout près de la cuisse, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise, hein. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte trois plaques. Ligo, j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Plus de ce vide, les écrans, mais j'suis en pétard. Préfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qu'aura changé, c'est peut-être le prix du blouson.
C'est peut-être le prix du blouson. c'est tout se passe comme prévu. Tout ça c'est le destin.
Chef.
Après ça on devient des chefs.
Ouais. Max.
Chef.
Radio Capi, grand témoin.
Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Olivier Kamitatou Etchou, plusieurs fois ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement porte-parole de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, un parti politique de l'opposition. 2018, nous assistons à la passation pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi et vous autres, vous tombez dans les bras de Félix Tshisekedi, c'est la lune de miel, et puis c'est une fois de plus le divorce. Qu'est-ce qui se passe?
En 2018, on assiste à une alternance bricolée. Les résultats ont été bricolés, tout le monde le sait. Je pense qu'aujourd'hui, le président Corneille Nangaa ne cesse de le clamer sur tous les toits, mais tout le monde le savait déjà, la presse aussi. Elle s'en est fait largement l'écho, la grande presse internationale, sur les vrais résultats. Il y a eu...
Mais à l'époque, vous ne le disiez pas.
Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. La Mouka s'est créée, nous l'avons dit. Nous avons soutenu Martin Fayoulou et nous avons voulu revendiquer, mais nous avons dit attention. Dès lors que nous sommes une opposition républicaine, si cela s'est inscrit dans la tête de tout le monde, nous n'irons pas prendre des armes, nous n'irons pas faire une insurrection, nous resterons dans le jeu institutionnel. Voilà ce qui s'est passé en 2018. En 2020, le président Félix Tshisekedi fait un discours extraordinaire. Ça ne va pas durer longtemps, 6-7 minutes. Un très grand discours dans lequel il appelle tout le monde à la rescousse en disant « Ce pays doit être sauvé, je vous appelle tous à venir me rejoindre parce que je constate que ça ne fonctionne pas. » Et donc, il y a un grand débat au niveau d'ensemble. Et nous décidons effectivement de donner une chance à Félix Tshisekedi. Et on a constaté que cette chance-là était galvaudée, que rien ne changeait, que tout ce qu'on constate aujourd'hui, une absence totale de résultats, des promesses à foison, un train de vie somptuaire, une justice à l'encan, tout cela, on a considéré que nous avions été trompés, qu'entre le discours et la réalité de la gouvernance, il y avait plus qu'un fossé, et donc c'est comme ça que nous avons librement décidé de dire « Non merci, nous ne continuerons pas dans cette expérience ».
Aujourd'hui, Moïse Katumbi est dans l'opposition. Vous avez vu, à un moment, quand je reprenais votre présentation, j'ai hésité, Olivier Kamitatou, président de l'ARC, ancien président. Il y a plusieurs personnes qui ont considéré que le fait d'avoir laissé dissoudre l'ARC dans Ensemble aujourd'hui, que c'était une faiblesse pour vous, selon vos détracteurs.
Je pense que les partis doivent avoir d'abord une base idéologique très forte. Qu'un pays n'a pas besoin de 900 partis politiques. Il y a combien d'idéologies? 7 ou 8? Pourquoi a-t-on 900 partis politiques? Non, il faut se rassembler. Il faut donner une vision commune. Ce rassemblement, je l'avais déjà expérimenté avec Moussa Niamouissi dans les forces du renouveau en 2006. Nous n'avions pas fait un parti à l'époque. J'ai considéré que nous pouvions faire un grand parti partageant les mêmes valeurs, la même idéologie libérale et sociale. Et je me suis retrouvé effectivement dans les idées portées par Moïse Katumbi et portées par tous les compagnons qui sont à l'intérieur de l'ensemble. Nous avons fait de manière très démocratique un choix au niveau de l'ARC. C'est comme si vous êtes dans la même rue, il y a 50 pharmacies qui vendent les mêmes produits, au même prix, aux mêmes clients. Non, ça ne sert à rien. Rassemblons-nous, créons une grande force politique. Il vaut mieux être dans la plus grande force politique qui va diriger le Congo, qui va donner une nouvelle dynamique, dresser un nouvel espoir, un nouvel horizon aux Congolais, que de rester le 900e parti politique congolais. Ça n'a plus aucun sens tout cela. Tout ça c'est du bricolage, on a créé des mosaïques et il ne faut pas se laisser leurrer par ça. Il faut demander, mais quelle idéologie vous poursuivez? Quel est votre projet? Quelle est votre vision? Comment allez-vous diriger ce Congo? Et je me suis exactement retrouvé dans la même vision que Moïse Katumbi, que Christian Mwando, que Feu Chérubin, que Salomon Kalonda, avec des amis et avec les compagnons de mon parti, l'ARC.
Plusieurs autres de vos détracteurs sur les réseaux sociaux, on le voit, hein, regrettent le fait que Olivier Kamitatou, ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, mais qui est réduit aujourd'hui, selon leur expression, à ne devenir que le porte-mallette de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Oh, vous savez, porte-mallette, il y a eu une espèce de fabulation. Je descendais d'un avion en portant ma valise de cabine parce que j'avais un autre avion à prendre immédiatement qui était juste à côté. Il y avait un Éthiopien à côté. Donc nous revenions avec le président Moïse Katumbi, je ne sais pas de quelle destination. Je devais repartir. Et donc, cette photo, on a dit, ah non, non, il porte la mallette de Katumbi. Non, on était président de l'Assemblée nationale. Je m'appelle Kami Tatou. Je sais qui je suis et je sais ce que je peux apporter parce que j'ai l'intime conviction. Et vous venez pendant ici presque une heure, on a parlé de Joseph Kabila, on a parlé de Jean-Pierre Bemba, on a parlé des autres leaders. J'ai trouvé en Moïse Katumbi un homme qui a des qualités. Ces qualités-là sont des qualités qu'il faut essayer d'exalter. Il faut essayer d'aider quelqu'un qui peut être, à un moment donné, qui peut prendre son rendez-vous avec le peuple congolais. Et tout le monde n'a pas vocation à devenir candidat à la présidence de la République, mais j'ai l'intime conviction que Moïse Katumbi, avec son expérience du Katanga, avec la détermination qu'il a eue, son engagement à se départir de ses grandes responsabilités, avec son passé, que ce soit au niveau sportif, au niveau du business, donc du monde des affaires comme opérateur économique, à travers le mécénat et le monde social et associatif, c'est quelqu'un qui a assez de qualités que je n'ai pas trouvées dans les autres leaders. Je pense que son heure est arrivée.
Comment réagit Moïse Katumbi, vous qui êtes si souvent avec lui, quand il suit des documentaires comme Katanga Business et beaucoup d'autres critiques sur sa gestion de l'ancienne province du Katanga? Certaines sources lui attribueraient même des détournements massifs, beaucoup de décaissements sans avoir concrètement rien fait pour la province, mais beaucoup plus pour lui-même. Comment il réagit?
Deux choses. Moïse Katumbi a subi plus de 22 contrôles des services de l'État qui n'était pas du tout complaisant. Joseph Kabila, à l'époque, n'était pas du tout complaisant vis-à-vis de son ancien gouverneur et tout était fait pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelques cadavres dans les tiroirs de la gestion de Moïse Katumbi. Tous ces contrôles n'ont rien donné. C'est la première chose. Si quelqu'un dit Moïse Katumbi a volé de l'argent, qu'il le prouve, qu'il le démontre. Jusqu'à présent, on s'est vraiment mis sur ce dossier, on n'a rien trouvé. Le deuxième élément important, c'est qu'on peut juger d'une gestion au souvenir que vous laissez comme gestionnaire. Il n'y a aucune gestion qui soit parfaite, j'en conviens. Mais quand je vois la popularité de Moïse Katumbi auprès des siens au Katanga qu'il a administré pendant près de 10 ans, j'espère que Ngobila aura la même popularité dans 10 ans auprès des Kinois. C'est une échelle de valeur. Quand vous restez un homme intègre, que vous avez travaillé pour le bien de votre population et que vous avez une certaine empathie, vous savez, en termes d'homme, c'est un homme de cœur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut embrasser une vieille maman et qui peut parler le lendemain à un homme d'affaires qui soit un partenaire ou un milliardaire. Donc, il a ce degré d'empathie qui fait que c'est à la fois un homme organisé, un homme discipliné, mais un homme qui a le sens et l'amour du prochain.
Nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais comment réagit-il aussi à toutes ces élucubrations autour de sa nationalité?
Quand on touche au fondement d'une personne, je ne peux pas croire que ça ne touche pas. Je ne lui en parle pas. Mais ça renforce probablement sa détermination à aller de l'avant parce que tout ça est bâti sur du mensonge. Faut pas oublier que Moïse Katumbi est né d'un ventre congolais dans une communauté qui est matrilinéaire. N'allez pas demander à sa communauté de renier Moïse Katumbi parce que son papa ne serait pas congolais. Ce serait contre les traditions de cette communauté. La loi sur la nationalité a été forgée dans l'accord de cesser le feu de Lusaka en 99. S'il est un point dans tout ce que nous avons dit sur mon passé, c'est qu'avec Kamere et Rouberoa, dans l'accord de cesser le feu, parmi les points essentiels qui ont permis à ce pays de retrouver la paix, que les fusils soient abaissés, il y a eu cette loi sur la nationalité. Ce premier texte, qui n'est pas encore une loi, mais qui est un accord qu'on convient entre le RCD, le MLC et le gouvernement de Kinshasa, c'est de dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Et c'est une loi extrêmement généreuse et créative. On dit qui est congolais de père ou de mère, vous êtes né en République démocratique du Congo, ou vous appartenez à une des communautés qui faisaient les frontières du Congo en 1960. Voilà les trois points, le jus soli, le jus sanguinis. Nous avons mêlé les deux et nous avons ajouté la communauté à laquelle vous appartenez. Nous avons repris ce texte en 2003 dans la constitution de transition. Nous avons repris ce texte en 2005 dans la constitution qui nous régit aujourd'hui. Et quelques olibrius, simplement pour un individu qui gêne voudrait remettre en question ce que nous avons bâti depuis 1999. Donc, Moïse Katumbi, très clairement, s'affirme comme étant un grand leader. Et je ne pense pas qu'il soit touché par cela. Ce qui le toucherait, c'est qu'effectivement la loi puisse être modifiée simplement pour son cas à lui. On sait qu'il y a des majorités mécaniques. On sait que l'Assemblée nationale n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut raison garder. Les fondements d'une longue paix dans notre pays ne peuvent pas être malmenés parce qu'il faut écarter un individu de la course présidentielle.
Olivier Kamitatou, notre entretien est en train de toucher à sa fin. 24 dossiers de candidature réceptionnés par la CENI. Moïse Katumbi, cette fois-ci encore, croit-il en une candidature commune de l'opposition?
Je pense qu'il faut faire des efforts. Les efforts doivent être faits. Il faut à la fois que ces candidats de l'opposition se parlent, qu'ils aillent projet par projet, que nous puissions faire une synthèse. On sait que les uns sont favorables à la justice transitionnelle, les autres ont une vision beaucoup plus libérale, d'autres ont une vision beaucoup plus sociale. Si ensemble ils peuvent se mettre d'accord, je pense que cette démarche va commencer, elle sera progressive. Le peuple congolais veut une réelle alternative. Pour un Congo prospère, il faut une alternative qui soit crédible. Pour un Congo plus juste, un Congo le plus sûr, un Congo apaisé, Moïse Katumbi se mettra à discuter. La discussion doit s'engager. Quand les candidats seront connus, validés par la Cour constitutionnelle, je pense que la discussion va commencer, qu'il faut raison garder et il faut avoir le moins de candidats possible. Nous avons trois grands dangers. Le premier, c'est l'abstention. J'appelle toutes les Congolaises et les Congolais à se départir du fatalisme. Quand les Congolaises et les Congolais disent « ces élections, ça vaut pas la peine, ils vont encore tricher, la classe politique se moque de nous », non. Chaque Congolais peut être propriétaire et doit protéger ses voix et doit certainement aller voter. Ne restez pas à la maison le jour des élections. Pas d'abstention. Le moins d'abstention possible. Deuxième, c'est la dispersion. 24 candidats, 25 000 candidats, non. Le moins de candidats possible, et ça c'est une question de responsabilité des candidats et de volonté d'aller de l'avant. De ne pas donner une prime aux sortants qui serait catastrophique, dramatique pour ce pays. Et troisièmement, c'est la fraude. On sait qu'on prépare la fraude. Et pour contrer la fraude, chaque Congolaise doit être propriétaire de sa voix. Voilà les trois grands dangers sur lesquels nous devons veiller étroitement. Et Moïse Katumbi sera présent le jour des élections. Et je vous assure que la discussion qui va s'engager entre tous les candidats, la candidate, nous voulons effectivement qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat. Si on ne réussit pas à 100%, c'est pas grave, mais la démarche doit s'engager rapidement.
Olivier Kamitatou, merci d'avoir accepté l'invitation de Grand Témoin.
Je vous remercie beaucoup, monsieur.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. À la technique, Alain Ngoy. Merci à Jonathan Fanani et Clément Chimanga à la vidéo. Supervision Jean-Marc Matouaki. Présentation Alain Irung Mouchinj. Vous pouvez retrouver cette émission et beaucoup d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiokapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.